Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Sur les 10 personnes les plus riches de Chine, eh bien 5 sont des patrons de la tech. On parle évidemment de Jack Ma pour Alibaba, mais aussi de Pony Ma, le patron de Tencent, qui a le plus perdu, tout comme Colin Huang, le patron de Pinduoduo, qui a perdu un tiers de sa fortune cette année.
Depuis le début de l'année, les 6 premières entreprises chinoises de la tech ont vu leur valorisation en bourse fondre de 1000 milliards de dollars, conséquence de la reprise en main de l'économie privée par Pékin. La Chine a fait tomber le masque et rappeler la prédominance du Parti communiste et du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. On va s'intéresser en 2 épisodes à la nouvelle révolution chinoise en Chine et sur la scène internationale menée par celui que le grand public surnomme affectueusement Tonton Xi et qui se verrait bien dans le costume d'un Mao du 21e siècle.
Direction pour débuter donc la Chine où le Parti communiste fête ses 100 ans. Pour le président Xi Jinping, c'est bien sûr l'occasion rêvée de vanter à nouveau le modèle unique de son pays. Mettant en garde contre toute pression étrangère, le président chinois a salué, je cite, « le nouveau monde » créé, selon lui, par son peuple.
Le Parti communiste chinois a fêté ses 100 ans début juillet, donnant lieu à d'importantes célébrations en Chine. Elles ont aussi permis au président Xi Jinping de réaffirmer le pouvoir du parti marxiste léniniste et son emprise sur la société chinoise. La reprise en main ces derniers mois de plusieurs secteurs de l'économie, dont je vous ai parlé il y a quelques jours dans la story avec Frédéric Schaeffer, est l'illustration d'un régime politique qui entend montrer sa divergence avec l'idée démocratique développée par le monde occidental. La Chine de 2021 commencerait-elle à se refermer sur elle-même pour développer un peu plus une cybercrature totalitaire? C'est la thèse développée par 2 sinologues que j'ai le plaisir de recevoir dans la story. Emmanuel Linco est professeur à l'Institut catholique de Paris, chercheur associé à l'IRIS, et Emmanuel Véron est docteur en géographie, enseignant-chercheur à l'école navale. Ils publient ensemble « La Chine face au monde, une puissance résistible » aux éditions Capimuscat. Bonjour Emmanuel Véron.
Bonjour.
Bonjour Emmanuel Linco.
Bonjour.
2021, c'est une année importante pour la Chine. Un an et demi après la découverte d'un virus qui a bouleversé le monde, c'est l'année du centenaire du Parti unique en Chine, le PCC. Et dans un an, il y aura un congrès important qui entérinera sans doute la prise de pouvoir de Xi Jinping. On y reviendra. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne ensemble sur cette remise en cause de la libéralisation de la Chine avec cette reprise en main des entreprises chinoises. Emmanuel Véron, Pékin se préoccupe plus aujourd'hui de la couleur du chat ?
Oui, manifestement, en tout cas, c'est ce qui est affiché. On est, dans une certaine mesure, en rupture avec ce qui avait été proposé par Deng Xiaoping il y a plus de 40 ans, parce que c'était des premières expériences, l'expression « un chat noir, chat blanc », etc., important, c'est qu'il attrape une souris, étaient des expérimentations très localisées au sud de Shanghai dès les années 60, ce qui lui avait d'ailleurs permis à Mao de purger une nouvelle fois Deng Xiaoping du système politique et administratif. On est manifestement sur cette nouvelle tendance. On est très regardant sur la couleur du chat. Je crois que c'est finalement assez congruent du système politique et administratif chinois lui-même et de la nature de la puissance. Cette incapacité à produire de véritables entrepreneurs, de véritables capacités ou incapacités plus exactement à avoir un système qui permet l'investissement, qui permet le secteur privé de grossir, de s'épanouir, à la fois sur le territoire national et puis en Asie et puis plus largement dans le monde. On a ce souci permanent de contrôle, de l'obsession du contrôle. Et ça passe par la finance, ça passe par l'économie, ça passe par un système qui est finalement très, très, très articulé par une manne de quelques hommes politiques, administratifs et étatiques qui se répartissent entre une cinquantaine de familles.
Avec quand même une capacité à créer un certain nombre de milliardaires et d'entreprises qui vont avoir un rayonnement, en tout cas régional.
Oui, j'abonde dans le sens d'Emmanuel, en effet, parce que, en réalité, c'est le principe même d'une dictature. La différence entre une démocratie et une dictature, c'est que dans une dictature, vous avez une confusion des pouvoirs. Dans une démocratie, une relative séparation des pouvoirs. Et effectivement, l'année prochaine, ça va être très important parce qu'on sent vraiment une sclérose, une confusion de plus en plus grande entre ces différents pouvoirs, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait pas de contestation au sein du parti État. Parce qu'il y a 3 semaines, 1 mois, grosso modo, il y a eu une réunion annuelle du côté de Beïdache. Et autant que l'on en sache quelque chose, parce qu'évidemment le régime par nature reste très opaque, il y a des dissensions, il y a non pas du consensus, mais du dissensus au sein du parti. Et à la veille de cet anniversaire et de cette échéance extrêmement importante, qui verra sans doute Xi Jinping reconduit de facto dans ses mandatures et mandatures à vie, et en cela le régime chinois tend de plus en plus à se poutiniser véritablement, ça risque quand même de provoquer des grincements de dents. On sait que des officiers de l'armée populaire de libération contestent une partie du pouvoir, mais aussi des gens proches du premier ministre Li Keqiang contestent ce projet de plus en plus considéré comme délirant parce que non solvable, qui est le projet des nouvelles routes de la soie.
Les nouvelles routes de la soie, un chantier estimé autour de 1000 milliards de dollars et qui est aussi un outil d'influence économique et culturelle de la Chine dans le monde et surtout de ses proches voisins. C'est un projet qui tient particulièrement au cœur du président chinois.
Nous avons atteint le premier objectif de notre centenaire. Une société modérément aisée a été construite sur la terre de Chine et nous avons résolu de manière historique le problème de la pauvreté absolue. Nous nous efforçons d'atteindre le deuxième objectif du centenaire, à savoir la construction d'un pays socialiste moderne et puissant à tous égards.
Il y a tout de même eu une ouverture, un enrichissement, la création d'une classe moyenne, la création d'une société modérément aisée, pour reprendre les termes de Tonton Xi lors de la cérémonie du centenaire du PCC. C'est une vidéo de France 24. C'est une première étape avant de créer, dit-il, un pays socialiste puissant. Quoi qu'il en soit, on ressent au sein de la direction du parti, dans les décisions récentes, la crainte d'un printemps chinois, Emmanuel Linco.
Ce n'est jamais impossible parce que il y a une contestation en interne. Il ne faut pas oublier non plus un certain nombre de paramètres essentiels. C'est que lorsqu'on parle du retour de la croissance en Chine, dans le contexte déjà post-Covid-19, on omet souvent de se poser la question, mais pour qui? Parce qu'en réalité, vous avez 600 millions de Chinois qui vivent avec, en moyenne, 130 euros l'équivalent par mois. Donc, on a toute une partie de la population qui est en souffrance, qui a considérablement été impactée aussi par la Covid. Vous avez des centaines de milliers de PME qui ont été obligées de fermer. Dans un pays, rappelons-le, où il n'y a aucune assurance chômage, où il n'y a pas de sécurité sociale, où le système de santé est défaillant. Et cela devrait constituer précisément les priorités du régime, de s'attaquer aux vrais problèmes et non pas de trouver des exutoires dans la confrontation vis-à-vis des États-Unis ou dans la question de Taïwan, par exemple.
Oui, le défi de Xi Jinping, c'est de sortir 20 à 30 millions de Chinois par an de la pauvreté. C'est ce que vous expliquez notamment dans ce livre, hein, ce qui peut mener à une certaine peur de l'effondrement, alors que la croissance chinoise a été aussi pénalisée par la crise du Covid. Mais qu'est-ce qui menace aujourd'hui le pouvoir du numéro un chinois?
Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses sur la question de, à la fois qui renvoie au modèle de développement chinois, ou en tout cas tel qu'il se décrit lui-même en tant que modèle de développement, donc sortir des gens de la pauvreté massivement, et ce qui renvoie directement à quelque chose qui serait perçu comme étant le pouvoir légitime, le système politique légitime qui permet de diriger la Chine, qui permet de lui donner une stature internationale, qui permet de sortir de la pauvreté des masses immenses, rurales ou non rurales, dans ce grand pays. Ce qui peut menacer le système, c'est bien tout ça à la fois, en permanence, quotidiennement. Et le système lui-même du parti-État, dont Xi Jinping est le grand chef, le grand patron, le sait pertinemment, et son équipe resserrée autour de lui, dans les différents secteurs administratifs, politiques, économiques, financiers, diplomatiques, militaires, stratégico-sécuritaires, le savent pertinemment quotidiennement. Un, c'est la gestion des masses démographiques qui sont immenses. Et aujourd'hui, avec un vieillissement démographique qui est un vrai gros sujet, qui sera peut-être pallié, ou en tout cas, c'est probablement une des raisons des forts investissements dans les technologies de rupture, dans l'intelligence artificielle, pour accompagner le vieillissement de la société chinoise en matière d'emploi, bien évidemment, mais aussi pour avoir une économie de plus en plus grise, avec des personnes âgées. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Question de santé, etc., etc. Alors, si on revient sur la question de la pauvreté des supposées classes moyennes, et puis en dessous de cela, les classes de paupérisés. Premièrement, c'est la classe de milliardaires, ce que vous évoquez au début de cette émission. Quand on regarde les milliardaires aujourd'hui chinois, ils sont tous plus ou moins articulés directement au précédent régime ou l'actuel régime. Et la plupart d'entre eux sont pourchassés, soit en Chine, soit à l'international. C'est la question des fox hunts, des grandes opérations, si vous voulez, de sécurité par les organes chinois, de contre-espionnage, etc., pour pourchasser ces gens-là, pour corruption, compromission, etc., sur le territoire ou à l'international. Ça, c'est le volet, si vous voulez, milliardaire. Mais effectivement, on a une classe de Chinois, plutôt urbains, qui se sont enrichis et sur lequel le parti doit miser pour les maintenir en laisse, cette société en laisse. Et enfin, nous avons encore une immense majorité de population qui est en dessous de cela, voire de situations de grande paupérisation.
On entend ici un spectacle dansant dans les rues de Maoming, c'est dans la province du Guangdong, spectacle folklorique à la gloire des réalisations du président Xi. Vous évoquiez tout à l'heure le terme de dictature, mais dans votre livre, vous parlez aussi d'une cybercrature totalitaire, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a certes une différence entre la Chine d'avant et d'après, donc des années d'Aung Xiaoping et de Xi Jinping aujourd'hui, mais les moyens ont considérablement changé. C'est-à-dire que d'abord au Xinjiang, donc dans la province du Nord-Ouest, pays musulman ouïghour, on a expérimenté il y a quelques années l'usage de l'intelligence artificielle, du crédit social, etc. Et ce que, d'une manière générale, on a du mal à concevoir, à percevoir depuis la France notamment, c'est que ce système s'est développé désormais à l'ensemble du territoire national, voire même au-delà. C'est-à-dire que n'importe quel individu, qu'il soit riche ou pauvre, est passé systématiquement au laser. Et donc, vous avez une sorte d'irruption, d'entrisme extrêmement dérangeant, qui ne colle absolument pas avec une certaine idée des droits de l'homme que nous avons et le respect de l'individu dans ses droits et dans son intimité. Donc cette cybercrature, oui, nous la désignons ainsi, cybercrature nationaliste et autoritaire, parce que de ce point de vue-là, la Chine a tristement innové, et que ce soit Huawei ou le projet de la 5G, et donc les nouvelles routes de la soie du numérique, c'est loin d'être un projet anodin, parce qu'en définitive, une coopération avec la Chine en tant que régime dictatorial induirait, bien sûr, que nos données en tant qu'individu, médical, bancaire ou autre, soit stocké par Pékin, et cela poserait clairement des problèmes. Un exemple très simple, parce que d'une manière générale, tout cela reste assez abstrait. Lorsque, en Chine, vous n'avez pas le nombre de points requis de ce crédit social, donc vous avez un barème de plusieurs centaines de points que vous pouvez, un peu comme le code de la route, a priori rattraper par des travaux d'utilité publique, etc. Bon, mais si vous n'avez pas le nombre requis de points, vous voulez acheter un billet de train pour aller voir vos parents, eh bien, l'ordinateur va bloquer en disant « non, ce n'est pas possible ». Beaucoup plus grave, en Chine, où il n'y a guère de médecine privée, c'est un reliquat de la période communiste ultra, vous avez un petit bobo, une petite angine, un petit ennui de santé, vous allez à l'hôpital pour acheter des médicaments. Eh bien, avec le crédit social, dans ses aspects les plus radicaux et terrifiants, on vous dira « mais, cher ami, vous ne pourrez pas franchir le seuil de l'hôpital ». Donc ça pose clairement, en somme, des problèmes qui sont ceux des valeurs. Voulons-nous adhérer à un modèle de société qui est celui prôné par la Chine ? Évidemment non.
Emmanuel Véron, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Cette question de cybercrature. Je crois qu'il faut revenir à l'histoire de l'Internet en Chine et la perception extrêmement, non pas sophistiquée, mais très utilitaire que le régime a pu en faire, au moins dans deux directions. L'Internet arrive dans les fins des années 80 en Chine, de manière très très graduelle, morceau par morceau, de manière très très pointillée, en particulier dans les grandes métropoles du littoral. Et puis il va commencer à avoir une structuration nouvelle, une institutionnalisation à la fois technique et administrative, dans les années 90, et le régime, avec ses différents services de sécurité, entre autres, mais pas que, va y voir un double avantage. Première chose, c'est formidable outil de contrôle de la population. Contrôle, en priorité, du régime, de sa propre population, donc les 1,5 milliard d'individus chinois, ou 1,4 milliard, peu importe. Et deuxième sujet, un formidable outil d'expansion à l'international par du cyberespionnage, par de la cyberoffensive à travers les serveurs partout dans le monde. Ça, c'est les années 2000. Et ça va être extrêmement structurant dans le rattrapage technologique chinois, ces questions de cyberoffensive, en particulier en direction de territoires, de zones, de secteurs, là où les savoirs sont, là où la recherche et développement est, là où il y a du brevet, là où il y a de la technologie de rupture, c'est-à-dire pays industrialisés, pays développés, donc qui se recoupent avec l'idée d'un Occident. Dans ces deux directions-là, le régime et les organes vont avoir des retours d'expérience plutôt positifs et vont se dire « bon, finalement, ça n'a pas trop mal marché ». Ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'une partie de l'Occident va monter en puissance des contre-mesures pour mieux protéger ses serveurs vis-à-vis de ces cyberattaques. Ce qu'il va y avoir, c'est qu'après ces contre-mesures du monde occidental face à cette massification des cyberoffensives, le régime va passer à autre chose. Il va corréler cela avec ce qu'Emmanuel Linco évoquait, à de l'intelligence artificielle, à une réflexion sur le big data et systématiser tous les systèmes d'observation de masse sur son territoire. Et donc, on est encore aujourd'hui dans un système très laboratoire de tests sur sa propre population pour, à terme, exporter cela à travers différentes technologies, infrastructures et autres, et diffuser dans le monde, pour contrôler depuis la Chine, la matrice chinoise, si vous voulez, la gestion de flux informationnels. En cela, ils ont un modèle, c'est la NSA, matinée d'une idéologie qui est celle de Pékin, du marxisme-léninisme.
La représentation a mis en lumière certaines des principales réalisations du parti, de la fondation de la Chine nouvelle au retour de Hong Kong à la mère patrie, en éradiquant l'extrême pauvreté jusqu'à surmonter la COVID-19.
La chaîne de télé chinoise CGTN en français décrivait sans emphase les cérémonies du centième anniversaire du PCC. On pouvait d'ailleurs voir le président Xi portant une veste grise à col Mao. Vous écrivez, il y a une illusion d'une indéfectible cohésion sociopolitique rassemblée autour d'un parti-État au sommet duquel Xi fait figure d'empereur. Xi Jinping, c'est le nouveau Mao qui règne sur le centenaire PCC et ses 90 millions de membres.
Vous avez raison, et il faut rappeler que c'est le second parti au monde après le BJP indien, donc c'est véritablement une aristocratie, mais ne pas sous-estimer le degré de résistance des populations civiles. Bien sûr, on le sait, sur les marges même de la Chine, les Ouïghours, les Tibétains, les Mongols, voire même Hong Kong, et à l'intérieur même du régime, comme on le disait tout à l'heure, des dissensions manifestement de plus en plus fortes d'une partie de l'armée, du clan du Premier ministre Li Keqiang et peut-être d'anciens présidents, et puis surtout une forme de résistance passive. Et j'y vois un indice sociologiquement assez intéressant, y compris d'un point de vue de l'évolution du marché et des consommateurs. C'est le mouvement que l'on a appelé Tangping, c'est-à-dire ceux littéralement qui sont couchés et qui refusent d'obtempérer aux exhortations du régime. Et vous avez une part non négligeable, alors combien de personnes, ça on n'en sait rien, mais non négligeable manifestement, qui s'y refusent. Donc qui optent non plus pour la trilogie qui a longtemps prévalu dans la Chine de Deng Xiaoping et après, la Chine des réformes, travail, famille, patrie, grosso modo. On n'est plus du tout dans cette trilogie-là. On est déjà dans jouissance, individualité, et puis foutez-moi la paix, grosso modo. Vous voyez, c'est un peu ça, pour dire les choses d'une manière radicale. Et ça, évidemment, le régime est pris de court, c'est-à-dire que ça marche pas, ça matche pas, sur les jeunes tout particulièrement, d'autant que le régime s'est tristement et stupidement, je dirais, distingué en interdisant aux jeunes l'usage des jeux vidéo. Alors, les quelques rares exutoires que l'on avait encore dans la société chinoise sont désormais interdits. Donc ça pose clairement des problèmes de radicalisation, et c'est ce que nous disons aussi dans notre livre. Le grand paradoxe, c'est que cette population au moins depuis la tragédie de Tiananmen en 1989, un deal tacite avait été passé entre la société d'en haut et la société d'en bas. Nous, on fait de la politique, vous, vous faites le business. Et ça marchait plutôt bien, puisque tant que le taux de croissance était suffisant, on achetait la paix sociale. Sauf que là, ça ne marche plus. Et le problème, c'est que cette société chinoise qui était depuis 1989 assez apolitique, en tout cas dépolitisé d'une manière générale. Vous interrogiez jusqu'à récemment n'importe quel citoyen chinois, il vous disait « je ne fais pas de politique ». D'une part parce que les gens ont peur, il ne faut jamais sous-estimer cette dimension-là, véritablement une politique de terreur qui s'exerce à votre encontre mais aussi parce que, bon, bah, clairement, tant que le business marchait, tout allait bien et on regardait ailleurs. Bon, là, pour le coup, Xi Jinping, contre tout effet escompté, est en train de repolitiser malgré lui la société chinoise et les jeunes en particulier. Et alors, ce que l'on peut redouter, et ça, ce sont quand même des tendances lourdes qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que ces mouvements de résistance passive pourrait très bien rencontrer d'autres flux de contestation qui sont ceux de la périphérie de la Chine, savoir Taïwan, Hong Kong, Thaïlande, où s'est créé à partir de 2017 un mouvement de contestation jeune ayant recours là encore aux réseaux sociaux, c'est la Milk Tea Alliance. Et en fait, le risque serait la convergence de ces différents courants, si vous voulez, avec une société clairement en berne et contestant de plus en plus cette primauté de Xi Jinping et du parti.
Emmanuel Véron, cet héritage de Mao, il est assumé par Tonton Xi.
Je reviens un instant sur la figure de Xi Jinping dans la continuité de ce qu'est évoqué et analysé Emmanuel Linco sur sa tenue vestimentaire, sur le port de tête, sur sa mise en scène systématique face à des foules immenses, qu'elles soient militaires, civiles ou autres. Il y a vraiment une esthétique maoïsante dans les formes, le paysage, dans la morphologie, si vous voulez, de ce que l'on pourrait percevoir comme étant un paysage marxiste-léniniste slash maoïste chinois. Indéniablement, Xi Jinping, aujourd'hui, incarne cette figure-là, qu'il a travaillée, il a mis toutes les forces autour de lui pour rendre cette image telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'on la perçoit aujourd'hui, à la fois en Chine, lorsqu'on est un Chinois, peu importe où, et qu'on est à l'extérieur du territoire, dans le contexte international. Pourquoi ? Probablement parce qu'il y a eu, et je pense que c'est quelque chose qui est assez sous-estimé, la volonté, au niveau du régime, de siffler la fin de la récré, au tournant des années 2010, et de se dire « la Chine est entrée dans une phase euphorique ». Après Tiananmen, en disant le deal, plus de demande de démocratie par la population, l'opinion, mais enrichissez-vous, faites de l'argent. Et ça a ouvert le bal véritablement à ce qui avait déjà été initié, à de la corruption massive dans les années 80 et la réintroduction, la réinjection de l'argent liquide sur le territoire chinois. En plus de quoi, le monde va investir en Chine. Énormément d'argent, énormément d'ego, énormément de personnalités, d'individualités, de trajectoires, de biographies vont vivre une sorte d'eldorado mythifié chinois entre les années 90 et le début des années 2010. On a à peu près un pas de temps d'une vingtaine d'années euphorique. On pourrait même dire orgiaque. Je veux dire par là que le degré de corruption était inégalé. Ce qui a produit dans la société chinoise une forme de ressentiment vis-à-vis de l'Occident en particulier, assez facile de taper et cibler l'Occident, et aussi un degré de compromission jusqu'à très loin dans le territoire des administrations, des cadres du parti, qu'on soit au Tibet, au fin fond de l'Anhui, chez les Ouïghours, etc. Cette possibilité de faire des affaires, de s'enrichir à peu près avec tout et n'importe quoi, du licite ou de l'illicite, et qui va donner une image de la Chine qui va être celle d'un gigantesque, si vous voulez, ambiance euphorique, je n'utiliserai pas d'autres mots. Xi Jinping va, avec son équipe, regarder de près cela, puisqu'il était déjà dans les organes depuis longtemps et il était vice-président. Il va y avoir donc cette volonté de nettoyer un peu les écuries d'Ogias de la part du régime et d'incarner une nouvelle figure et de travailler sur un discours pour reprendre en main un petit peu le système. Ce qui explique en partie les millions de purges. Les millions de Fox Hunt Operation, là, de chasser les manias, milliardaires ou millionnaires sur le territoire chinois jusqu'à l'international, pour remplacer et changer le système. Xi Jinping a voulu marquer, si vous voulez, une différence avec cela et donner une stature autre à la Chine. Le sujet étant que la Chine a du mal et aura encore beaucoup de mal à, si vous voulez, pleinement s'intégrer au monde et à remplir la palette globale de la puissance. C'est une puissance imparfaite. C'est une puissance qui a l'expérience du temps long dans sa région pure. Et Xi Jinping est en train de travailler là-dessus. C'est une des raisons pour lesquelles il s'érige en nouveau Mao. Et effectivement, depuis Mao, on n'a pas eu d'homme aussi fort avec des moyens technologiques, cybernétiques, militaires aussi importants.
身改消总两份，这两年干了不少事儿，教改一改户籍，改一改，改一改，改一改，便民惠民生活不累，精准扶贫不能掉队。把人民的期待变成我们的行动。
C'est le rap anti-corruption de la chaîne CCTV avec des morceaux de Xi Jinping dedans. Merci Emmanuel Linco et merci Emmanuel Véron, co-auteur de La Chine face au monde, une puissance résistible aux éditions Capimusca. Dans ce livre, il parle aussi de la façon dont la Chine tente de refaçonner le système international à son image, contre celui construit au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dominé par les États-Unis. C'est le thème que l'on abordera prochainement dans un autre épisode de La Story, le podcast d'actualité des Échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podcast Addict ou encore Castbox. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.